Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 101.7, 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec Josquin et Thomas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toi.
Bonjour Baptiste.
Nous allons parler de sortir du rêve. Mmh. Alors présentez-vous d'abord l'un l'autre.
C'est Josquin, je vais commencer. Eh bien, déjà comme deux copains donc. Thomas et moi, on s'est rencontrés il y a 2-3 ans. Et depuis 2 ans... on a commencé nos activités ensemble, qui prennent plein de formes. On va prendre un peu de temps pour en parler. Mais ça a commencé avec créer des cercles de parole, en gros. Des cercles d'hommes, des cercles mixtes. Il y avait quelque chose de fort lié à la parole, déjà. Et autour de l'écriture, de la poésie, il y a plein de couches, mais on a senti plein d'affinités tous les deux. J'ai aussi, grâce à Thomas, découvert un truc qui s'appelle le travail qui relie, dont on va peut-être parler aussi. Ce sont des ateliers qui existent depuis presque 50 ans. Et Thomas animait un stage de travail qui relie il y a 2 ans. Et moi, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vision de la politique, de l'écologie, de ma place dans ces questions sensibles autour de l'environnement. Et à la sortie de ce stage que proposait Thomas avec une amie à lui, j'ai dit « Thomas, moi, je suis danseur et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vous soutenir dans votre truc, mais pourquoi est-ce qu'en plus de tout ce qu'on a fait là pendant 3 jours et tout, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en plus danser ?» Et là, Thomas me regarde et me dit « Mais c'est une excellente idée. » Et en fait, on a commencé... c'est pas du travail qui relie à proprement parler qu'on fait, on va en parler. Mais joyeusement, on a commencé à créer un truc à nous dont on a envie de parler aujourd'hui. Voilà.
Ouais, merci pour commencer à raconter l'aventure comme ça. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, sur cette histoire de travail qui relie. Pourquoi j'en ai fait et comment ta venue et comment nos discussions ont permis d'aller un petit peu plus loin. Moi, le travail qui relie, c'était vraiment une idée de retrouver ma place et retrouver la place d'une action joyeuse au service de la vie. Et c'était une vision extrêmement politique, mais à la fois aussi très, très personnelle. C'est-à-dire que je pense aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est rejoints et qu'il y a quelque chose qui a vraiment matché entre nous. C'est que moi, j'avais l'impression depuis déjà 30 ans, une grande, grande partie de ma vie, m'aide à poser la question, qu'est-ce que je fous là, quel est mon être créateur, au service de quoi il peut se mettre, et d'avoir cette obsession en fait qui me lâchait pas, et d'avoir cette impression, et là je fais la transition sur sortir du rêve, d'être dans un mauvais rêve, et d'avoir cette impression d'être constamment bloqué. Et avec Josquin, c'est une des premières fois où j'ai rencontré quelqu'un qui me semblait aussi fou que moi, voire plus, et avec qui ça allait être possible de se soutenir et de créer une véritable bulle parallèle à nos vies quotidiennes et à tout ce qu'on pouvait se raconter sur nos vies. Et de là pouvait naître une véritable force qui allait nous permettre de créer, d'enclencher des actions, des choses. Et c'est véritablement ce qui s'est passé. C'est qu'on a créé une bulle de puissance. On aime beaucoup ce mot de puissance. C'est parti à deux. Et voilà, j'ai la joie de dire qu'aujourd'hui, ça s'étend à beaucoup plus que nous. À travers nos stages, nos rencontres, on a pu créer tout un tissage de personnes engagées sur leur propre chemin, mais aussi qui avaient envie de se retrouver. Et c'est ça aussi le travail qui relie, et c'est ça qui parle de notre rencontre, c'est cette notion de tribu, de recréer la tribu, de se retrouver comme les hommes et les femmes pouvaient se retrouver avant au coin du feu, de se raconter des histoires, de se raconter nos histoires et de se valider dans nos histoires, et de partir de là pour changer nos histoires personnelles.
On entend presque qu'il y avait une spirale dépressive, non, avant ça, enfin...
Oui, j'ai pas peur de le dire. Oui, je pense que j'ai traversé pas mal de moments et de cycles dépressifs. Mais je m'appuie beaucoup là-dessus aujourd'hui. parce que j'arrive quelque part à prendre du recul et à voir pourquoi ils étaient là. Pourquoi j'avais cette dépression et cette noirceur, c'est parce qu'au fond de moi, j'avais un feu, j'avais un élan très, 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 très fort à m'exprimer, à exprimer mon être tel qu'il était. Et je voyais que dans le monde dans lequel je vivais, eh ben, ce n'était pas vraiment possible. Et je crois, c'est comme ça que je me le raconte en tout cas, je crois que c'est de là que venait ma dépression, d'avoir l'impression d'être vraiment bloqué dans un cycle infernal.
Un mauvais boulot, un truc, enfin tout.
Moi, j'ai relativement peu travaillé après mes études. J'ai fait plein de petits boulots, mais c'était pas forcément le mauvais boulot. C'était plus la question sans réponse de qu'est-ce que je fous de ma vie.
Ouais, voilà. Qui est une question que les gens se posent pas tous, quoi. Enfin.
C'est vrai. Alors, peut-être précision, je dirais. Les gens se posent peut-être pas tous cette question à la même intensité, avec la même conscience. Mais moi, j'aime à croire que c'est quelque chose qu'on a tous et tout au fond de nous, de se demander qu'est-ce qu'on fout ici, en fait.
Et si c'est bien utile, ce qu'on fait, surtout. Voilà. C'est vrai qu'il y a un paquet de bullshit jobs, comme on dit. Josquin, parle-nous de la danse et parle-nous de ton rapport à la dépression.
Génial. Merci Baptiste, c'est vraiment cool. Moi aussi, comme Thomas, sur mon chemin de vie, je peux dire aujourd'hui que je fais plus la paix avec cette notion de dépression. Je vais te parler de danse, hein, Baptiste, mais je reviens à la parole et à notre rencontre. Et au centre, la parole nous a permis, moi, cette rencontre, l'importance de la parole, de poser au centre notre vulnérabilité. Et ce chemin de puissance et ce lien entre se dire vulnérable, donc on est tous aux prises aux mêmes questions, on se l'avoue ou pas, qu'on est déprimé, qu'on est dépressif, qu'on va pas bien, que machin, qu'il y a un truc qui cloche. Mais à partir du moment où on se l'avoue et on le partage à plusieurs, on trouve une espèce de force nouvelle. Et donc moi, j'ai aucun mal et je vais te répondre. Tu vois, par exemple, j'avais une addiction assez forte avec l'alcool, moi, pendant longtemps. Et sans parler d'une autre, qui était le tabac. Et la danse, pour te répondre, moi, c'est l'expression en moi de quelque chose de plus sain et de plus vivant et de vrai. Moi, je dansais quand j'étais enfant. Et ensuite, en tant qu'adulte, après, je me suis coupé, en fait, de cette spontanéité. Et moi, la danse, c'est très simple. J'ai retrouvé ce chemin plus tard dans ma vie d'adulte. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Et la danse, c'est justement le pendant. C'est reprendre ma liberté, en fait. Et ce que c'est que la dépression, par exemple, pour moi, je pense que c'est des manières. Je pense collectivement, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je pense qu'on bouge pas assez, par exemple. On bouge pas assez, on est de plus en plus, je vais dire des trucs que tout le monde dit, hein, mais derrière nos écrans, dans nos têtes, etc. La danse, c'est court-circuité, c'est comme faire du sport et tout, c'est juste, on arrête les conneries et on se met en mouvement. Et moi, j'ai fait ça seul pour me soigner, mais ce que j'aime dans les espaces qu'on propose, je suis un peu DJ aussi, en plus d'être danseur. Si on danse en plus collectivement, et ben là, on se sort, entre guillemets, collectivement, au moins un temps, de la dépression collective. Parce que si moi, je suis déprimé, c'est qu'en fait, autour de moi, il y a un problème, en fait. Quoi. Je le dis, du coup, là, sur l'antenne de la radio, c'est peut-être la société qui est malade et le truc qui est mal foutu, mais je suis peut-être pas si malade que ça, finalement. Voilà.
T'es pas si différent des autres. Ouais, non, on est tous un peu en dépression. Vulnérabilité, vous avez cité ce mot aussi, et cercle d'hommes, je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que c'est justement la position, la place qu'on attend de l'homme dans nos sociétés patriarcales, qui du coup vient faire le pendant de cette vulnérabilité? Enfin, voilà, normalement l'homme doit être puissant, ce que vous êtes en train de dire là, c'est, on le dit pas en général, on se tait, on pleure pas, on se cache.
C'est intéressant pour moi que tu emploies ces mots de vulnérabilité, de patriarcat et de puissance, entendus dans deux versions. Parce que oui, en effet, il y a une certaine image dans notre société, je pense, j'ai l'impression de le voir, qui relie la puissance au fait de se couper de ses émotions. Soi-disant, ce serait ça, être fort, en fait, tenir la baraque et pas dire, et surtout pas montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est, en effet, beaucoup ancré dans l'image des hommes. Et je pense que moi, et je ne peux pas parler au nom des autres, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui montrent qu'ils peuvent en souffrir de ça. de cette image qui, quelque part, est fausse. Parce qu'en tant qu'homme, oui, bien évidemment, nous avons des émotions, nous avons des choses à exprimer profondes à l'intérieur. Et c'est ce retournement de... Eh bien, en fait, se rendre compte que la vulnérabilité, c'est la porte vers la puissance. Ce qu'on appelle, en tout cas, ce qu'on aime définir comme la puissance, c'est-à-dire retrouver un élan de vie, une fluidité à l'intérieur, un élan créateur. Un élan créateur qui fait qu'on va vraiment... qu'on va être honnête avec nous-mêmes et qu'on va aller vers ce vers quoi on a envie d'aller, en fait. Et qu'on va pouvoir mettre en avant notre lumière, notre beauté, notre puissance, notre énergie de vie, et de la mettre au service. Et pour moi, c'est ça vraiment la puissance, c'est retrouver cet espace de choix et décisionnel à l'intérieur qui fait « oui, j'ai envie de choisir cette vie, j'ai envie de choisir ma vie, en fait ». Et comme on l'entend, comme on entend la masculinité aujourd'hui et la puissance, ben c'est quelque chose de comprimant et qui, pour moi, empêche ça, qui, au contraire, qui étouffe les élans de vie et qui étouffe l'envie de se prendre véritablement en main, quoi.
C'est pire qu'un dogme, finalement. La masculinité, enfin, telle que tu le décris, voilà. Voilà une belle introduction à se sortir du rêve, Thomas et Josquin. Donc, il y a un site internet, Sortir du rêve, et vous proposez des stages.
Des stages, oui. Des ateliers aussi. Mais pour commencer sur les stages, on est parti de l'envie. On voulait du temps. On pense qu'on a... Déjà, on fonctionne en petits groupes. Il n'y a jamais trop de monde là où ce qu'on fait. Pour pouvoir se rencontrer vraiment. Pas en surface, se rencontrer vraiment justement, pleurer s'il faut aller jusque-là, et souvent on va jusque-là, et s'écouter, se comprendre, se découvrir. Et donc, c'est plusieurs jours, c'est minimum en fait. On est parti un peu de ce concept, on appelle ça stage pour se faire comprendre, mais voilà, mais c'est une expérience de vivre ensemble en fait. C'est comme, tu parlais d'une bulle, Thomas, tout à l'heure. Oui, on tente ce pari d'aller se caler quelque part, un peu tranquille, avec moins de bruit, d'où le Diwa, souvent, même si on n'y habite pas précisément tous les deux, pas très loin, plutôt le Crétois, mais et c'est souvent par là qu'on vient, dans les montagnes, et on s'arrête, et on reste ensemble, une dizaine de personnes, pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, et ça, c'est les formules stage sur plusieurs jours. Et après, les ateliers, ben, on a fait plein de trucs. On a été invité l'année dernière au Festival d'Avignon, par exemple. C'était assez incroyable. On n'est pas du tout des professionnels du théâtre ou de la scène. Mais il se trouve qu'en déroulant nos activités et en faisant les rencontres, on s'est aussi rendu compte, cet élan de vie là dont parle Thomas, ce créateur, ces créatrices qu'on a en nous, là, il y a cette connexion avec l'art, en fait. Et tout le monde est artiste, ok ? Si tout le monde est déprimé, tu disais tout à l'heure, peut-être, je sais pas, c'est une hypothèse où tout le monde est vivant, tout le monde est artiste, on part de là aussi. On était à Avignon et on nous a donné une journée complète, un chapiteau, pour proposer nos activités, nos cercles de parole, notre manière de danser, de péter les plombs, d'utiliser le corps. En fait, on utilise aussi beaucoup le corps, on se sert de plein de trucs, donc... Quand je parle d'atelier, il faudrait voir à chaque fois. Je vais donner juste un exemple concret. On est lessivés là aujourd'hui parce que ce week-end, on a créé un truc. C'était une première qui s'appelait... alors, c'est plutôt par chez nous, entre Valence et Cré, là, dans un petit village qui s'appelle Montméran. Et on a fait cette expérience du printemps de la parole. Voilà, un peu copié sur le printemps des poètes. Sauf qu'on a dit, nous, on aime la poésie fondamentalement. Moi, j'adore ça et j'en écris, et Thomas aussi. Et on a dit, on veut gratter derrière, on stoppe les postures. On a ouvert une scène ouverte géante qui a duré 2 jours et où on propose aux personnes, par des petits ateliers, des trucs que maintenant on connaît, et de ne pas tomber dans le piège, comme la masculinité, de être poétesse, c'est ça, être beau, avoir du style... Merde, moi je suis fâché avec ça. Et c'est donner la parole à tout le monde, c'est ça qu'on veut. Et il y avait des enfants, il y a des gens qui n'ont jamais écrit, on s'en tape. Et les gens qui étaient venus avec des trucs déjà écrits, tout fait, on leur a dit, nous on te propose, tu sais quoi, d'aller là sur le tabouret devant tout le monde, c'est pas confortable, et de raconter ce que t'as dans tes tripes en fait. Et voilà. Et donc en fait, on fait plus de la poésie, on fait juste de qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes, dis-nous. Et on a décollé, voilà. Donc je sais pas si je dois appeler ça un atelier, un festival. Voilà. C'était un événement libre, participation libre, et c'était super. Voilà. Et on fait des cercles de parole entre hommes, ou mixte et plein d'autres trucs, mais je rends la parole.
C'est vrai qu'en fait, que ce soit stage, atelier, journée dans un chapiteau à Avignon, c'est juste que nous, on a nos outils corporels, on a nos outils d'écriture, on a nos outils de parole, on a nos outils de rituel. Et à chaque fois, c'est ça notre jeu, c'est ça qu'on aime faire, on les mélange en fonction des contextes, du temps qu'on a sur une journée, sur 2 heures ou sur 4 jours. Et ce qui nous intéresse vraiment, je pense que je peux parler en notre nom, c'est cette question de comment on crée l'étincelle, le déclic, la magie quand on mêle de la corporalité, comment on crée de la corporalité, de l'écriture, de la parole, du silence, comment on crée cette osmose collective, ce niveau de sécurité suffisante pour que les gens justement puissent se lâcher, puissent se montrer tels qu'ils ont envie de se montrer profondément. Et donc, au-delà de dire qu'on fait des stages, qu'on fait des ateliers, j'aime à dire qu'on, depuis 2 ans, on essaie de créer notre formule magique, notre recette, qui paraît, quand on participe au stage, assez naturel, et c'est ce qu'on veut, on ne se rend pas compte. On se dit, ils nous font commencer par un cercle, puis par un moment de danse. Mais en fait, ça, c'est énormément de travail en amont qu'on aime faire, de se poser vraiment la question, à quel moment on va placer quelque chose, comment on va faire en sorte de créer cette conscience collective on aime aussi souvent parler de déclic ou d'étincelle, qui va créer ce moment un peu magique où les personnes elles-mêmes ne vont pas se reconnaître et vont exprimer des choses à l'intérieur qu'elles ont eu peu l'occasion d'exprimer. Donc c'est pour ça que je rejoins Jocelyn dans ce sens de... C'est pas seulement être artiste ou faire de la poésie, c'est bien plus large. C'est au service de quoi, en fait? Et nous, la poésie, là, on l'aime le mettre au service de notre déploiement personnel et collectif. Et voilà, donc de manière plus globale, ce que je peux t'en dire.
Et vous aviez dit hors antenne, laboratoire d'expérience. Enfin, en fait, chaque stage, chaque atelier est unique. Enfin, est-ce que ça, vous voyez quelque chose qui se reproduit? Parce que évidemment, puisqu'on est tous dépressifs, alors du coup, tout le monde est un peu pareil. Est-ce que vous sentez comme ça qu'il y a des schémas qui reviennent? Ou est-ce que c'est quand même vraiment unique?
Oui, moi j'aime à dire qu'on propose une expérience. Donc oui, c'est unique parce qu'à chaque fois, le cercle est unique et les personnes qui sont à l'intérieur sont différentes. Et que surtout, c'est pas quelque chose qui se pense, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et c'est pour ça que parfois, c'est difficile d'en parler à travers des mails, des affiches, parce que c'est pas juste du marketing. Il y a vraiment ce truc de, il faut venir voir, en fait, il faut venir tester pour voir ce que c'est. Il faut traverser cette notre spirale. Pour goûter à ça. Donc oui, clairement, c'est unique. À chaque fois, on aime appeler ça aussi des voyages. Ce sont des véritables voyages sur quelques jours où on sait d'où on part et on ne sait pas du tout où on va. Après, voilà, comme je le disais, on a nos piliers. On a les choses qui nous rassemblent autour de la danse, d'une certaine façon de danser, peut-être qu'on pourra en parler aussi, de l'écriture aussi, d'une certaine façon de penser l'écriture, du rapport à la nature aussi, connexion aux éléments, des rituels et de la parole. Voilà, on a nos piliers et après, comme je disais, en fonction des contextes, en fonction des gens, ces piliers, ces repères, ces outils, on les agence différemment. Quoi. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
Ouais, merci pour ta question, Baptiste. Je crois que c'est vraiment pertinent. Il y a un truc qui s'éveille en moi, et c'est cette fameuse question, pour moi en tout cas, de celle de l'écriture ou de l'impro. Je ne suis pas du tout un artiste chevronné, je n'ai pas fait d'école, etc. Mais moi, dans mes pratiques, notamment d'écriture, mais aussi de danse, je vois que cette question, j'ai l'impression qu'elle est vraiment cruciale. Est-ce qu'on fait un truc et on répète toujours pareil, ce que j'appelle l'écriture, on sait où on va, tac, acte 1, 2, il va se passer ça, et en fait on s'emmerde. Ou est-ce qu'on fait le risque de l'impro et de quelque chose de plus vivant et qui est un peu flippant aussi, pour ma part. J'ai pas énormément d'expérience, ça fait 2 ans moi que je fais ça, et ça veut dire aussi, y a comme une responsabilité du collectif, on joue avec cet équilibre entre ce dont Thomas vient de parler, des bases, des rituels, des trucs qui vont se reproduire, que tu retrouveras à chaque fois, très clairement, comme dans le travail qui relie, dont on s'est aussi inspiré, où il y a 4 étapes, et nous, on sait comment ça commence, comment ça se termine, quelles vont être en fait les étapes. Mais le subtil, c'est d'essayer d'inviter ce qui veut s'inviter et qu'on ne maîtrise pas du tout et qui est bien au-delà de nos volontés en fait. Et on est bluffé à chaque fois de ce qui s'invite et à travers les personnes en fait. Voilà, et c'est ça qui est un peu dur à expliquer, mais j'ai beaucoup aimé ta question parce que forcément, si on reproduit toujours pareil, ça n'a pas de sens. Et même, voilà, moi, à titre personnel, j'ai un vrai goût. C'est ça l'esprit du laboratoire. C'est d'aller chercher toujours ce qu'il y a de nouveau à prendre. Je vais donner juste un exemple. J'aime beaucoup donner des exemples. La dernière fois qu'on a fait un stage tous les deux, et on a eu la chance de pouvoir faire des pratiques dans une très belle forêt. Et dans ce stage, j'ai fait la rencontre d'une danseuse qui est elle-même facilitatrice. Je me suis associé avec cette personne pour faire d'autres types d'événements. Moi qui suis DJ, qui propose des dance floors, mais entre quatre murs. Mais maintenant, j'ai envie que les gens dansent dans la forêt, en fait. Et elle avait le même rêve et on s'est associé pour proposer des temps de danse en forêt, avec une sono, avec une batterie et tout. Voilà. Et à chaque fois, à chaque voyage, il y a quelque chose qui sort, qui est nouveau, une rencontre, un truc dont on se sert pour la fois d'après. Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez les décrire un peu, ces piliers par quoi on passe, du coup, qui là est écrit, hein?
Bien sûr. Bah, y a la parole. La parole... Et plus précisément, ce qu'on aime appeler la parole sacrée, c'est-à-dire se retrouver dans des espaces de sécurité tels où en fait, on sait que la personne qui va prendre la parole est écoutée, est entendue, qu'on ne va pas couper sa parole, qu'on va l'entendre jusqu'au bout. Et ça, on en a fait l'expérience ensemble, d'abord en très petits groupes, dans des cercles d'hommes, et tu l'as dit, c'est de là que tout est parti quelque part. Et puis, à chaque fois, de cette parole sacrée, il en ressort des choses fantastiques. Mais c'est subtil. C'est subtil parce que ça demande à mettre énormément de conscience sur l'attention qu'on donne à chaque personne. C'est pas juste ne pas couper la parole. C'est vraiment donner un espace où aussi, quelque part, à la personne qui parle, on va lui envoyer une certaine énergie. On va mettre la lumière sur elle, comme peut-être jamais on a pu la mettre avant dans sa vie. Et c'est des espaces énormément précieux. Et combien de fois j'entends, encore une fois ce week-end, de gens qui viennent nous remercier pour dire merci pour ces espaces en fait complètement fous où je peux juste dire. Et encore une fois, on n'est pas sur cette idée, et ça se rejoint dans tous nos piliers, on n'est pas sur cette idée de performance. Il n'y a pas une parole précise à donner, il n'y a pas des choses à dire et à pas dire. Justement, c'est essayer de valider cet endroit que la parole est sacrée quoi qu'il arrive. Et qu'à partir du moment où on a un espace pour dire, pour exprimer, c'est déjà quelque chose de très fort, de très puissant, de très politique. Et c'est un peu lié, j'ai envie d'enchaîner là-dessus, c'est ce qui se retrouve souvent dans nos stages, dans nos ateliers, c'est ce qu'on aime appeler la questiologie. C'est-à-dire savoir poser les bonnes questions. C'est-à-dire que nous, on se triture beaucoup le cerveau avec joie avant de rentrer dans ces espaces-là pour se demander quelles questions on va poser aux personnes. Parce que, en fait, en fonction de la question qu'on va poser, forcément, ça va donner des réponses différentes. Mais de se dire que vraiment, dans le choix des mots, et parfois c'est très très subtil, ça va sur un changement d'un mot dans une phrase. Ça peut provoquer des déclics. Nous, on est vraiment à la recherche de ça, du mot qui puisse être relié au courant de l'émotion et qui va vibrer d'une certaine façon à l'intérieur des gens et qui va pouvoir éveiller, ouvrir un espace de oh, « ça me fait quelque chose, ça vient vibrer, ça vient en résonance avec mon histoire et donc j'ai quelque chose à en dire ». Donc voilà, pour parler brièvement de ce premier pilier, de cette parole qu'on considère comme sacrée et on essaie vraiment de, nous, dans le choix des mots qu'on a, de vraiment peser les mots et de sentir quelle résonance ils pourront avoir chez les personnes.
Et on est d'accord qu'évidemment les gens viennent sciemment faire ce stage et donc savent aussi qu'a priori ils vont être dans un environnement sécurisé pour parler.
Bien sûr. Bien sûr, c'est une des bases. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des moments challengeants, parce que c'est aussi, de manière plus globale, c'est aussi ce qu'on aime gratter, en fait. C'est aller voir les inconforts, aller voir les peurs. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos vies personnelles depuis des années, et c'est ça qu'on a envie de partager, cette expérience, d'aller parfois au fond de l'inconfort, de la vulnérabilité, de la peur, de ce qui coince. Souvent, on utilise l'image de la tuyauterie, qu'est-ce qui coince dans ma tuyauterie, pour, une fois dépassé ça, sentir aussi un élan de liberté.
Un autre pilier ?
Ok, j'embraye sur la danse, mais voilà, peut-être on parlera de silence aussi, parce que ça me paraissait important, mais la danse pour équilibrer justement avec le blabla, la tête, la philosophie et tout, ce qui est carrément une grande zone d'intérêt pour moi. Et la danse, c'est aussi ce moment où justement c'est tellement profond. Ces espaces de parole, en gros, c'est des espaces d'émotion. Qu'est-ce qui se dit ? C'est des émotions. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens, les personnes dans les espaces... Assez vite, on décroche du « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et tout ce genre de trucs-là. La parole, c'est vraiment plutôt les tripes, encore une fois. Et aujourd'hui, ça ne va pas parce que, en fait, je me suis fait larguer. Et en fait, c'est bon, si j'en parle dans le groupe, là, j'y ai un décès dans ma famille et tout. Donc, l'émotion, c'est quand même costaud. Et quand on est dit, c'est quand on a écouté tout le monde et tout. La danse... C'est plein de choses, mais là, c'est un peu pour faire une pirouette et dire on a besoin de légèreté aussi. Parce que tu vois, on revient à un truc de la dépression, tac-tac, que c'est lourd aussi, en fait, d'appréhender ces sujets, soit personnels, soit globaux, politiques et tout. Parce que des fois aussi, tu parlais d'être enfermé, et parfois, on peut se sentir enfermé collectivement, genre, mais comment on va faire, en fait, là, avec les températures et tout. Et ça, si on y pense deux secondes, on peut quand même commencer à se sentir très, très mal. Et la danse, c'est comme aussi redevenir des gosses. Moi, je le vois comme ça, même si j'ai été dans des écoles, j'ai appris des vocabulaires de danse et tout ça. Mais j'ai l'impression, moi, quand je regarde autour de moi, que plus on danse et mieux ça va, en fait. Voilà. Danser, c'est secouer tout ça. Et c'est comme marcher, c'est comme prendre un bain, c'est comme faire l'amour, c'est tout ce que vous voulez, l'escalade, le truc, chacun son machin. Mais la danse, nous, c'est un truc qu'on aime, mais c'est quand même assez simple. C'est le temps de danser, arrêter de réfléchir, quoi. Et ça rejoint peut-être la notion du silence. Moi, la danse, chez moi, c'est une pratique de la méditation. Voilà. J'ai pas besoin d'être assis sur une chaise, mais par contre, danser sur du son que j'aime. Et voilà. Et on a un petit goût, je le dis parce que j'aime bien me présenter comme je suis, et un peu aussi pour les rituels, mais du coup, l'environnement. Moi, j'aime beaucoup la musique africaine et pas que, mais on n'hésite pas à pousser le bouchon et à dire. C'est quand même une petite porte qu'on ouvre vers des moments de transe, en fait, aussi. Voilà. Avec des percussions, des musiques qui assument d'aller vers notre animalité. T'as vu ? Ouais, on est des hommes. Ouais, ouais, on est des femmes. En fait, on est des animaux aussi. Et tu vois, toutes ces questions autour du désir, de la sexualité, de tous les gros, gros autres dossiers aussi. Et je pense, moi, que ça circule aussi dans ces moments de danse et de défoulatoire, un peu. Je m'arrête là pour la danse.
Et puis ils se rejoignent. J'ai bien aimé que tu parles de méditation. Quelque part, tous nos process, tous nos piliers, c'est des formes différentes de méditation, de rentrer en contact avec soi, avec ses émotions et de les intégrer. Que ça soit dans le silence, que ça soit dans la danse, que ça soit dans l'écriture. Souvent, pour l'écriture aussi, après des moments de danse, par exemple, on aime parler d'écriture récolte. C'est des moments d'intégration, en fait. Et ce sont des rituels en soi. C'est poser de la conscience sur ce qui vient de se passer, intégrer et savoir un peu ce qui bouge à l'intérieur. Donc, c'est ça. C'est pour ça que cette notion de rythme, elle est très, très importante au-delà des piliers et des repères eux-mêmes. C'est vraiment comment on va agencer les propositions qui va au final donner une alchimie, en fait.
Alors qu'un orage est en train de péter, vous avez sans doute entendu, auditrices, auditeurs, qui vient à vos stages ?
Alors, pour être honnête, je vais dire qu'au départ, mais c'est normal, c'était plus les potes, les gens très proches qu'on rencontrait lors d'une soirée et à qui on disait qu'on faisait un événement. Je constate que ça s'élargit de plus en plus. Et après, c'est très, très dur pour moi, en tout cas, de répondre à cette question, de classifier, de dire qui viendrait à nos stages. parce que je dirais que c'est assez large. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent autour de cette question, de cette bascule, de sentir en elles ce feu, cette envie de création, cette envie d'émancipation, mais sans trop savoir où aller, quoi en faire. Et que parfois, ben, nos laboratoires sont le bon endroit pour aller creuser ça, en fait.
Des gens qui auraient envie ou qui sentent déjà qu'en en fait, ils ne sont pas au bon endroit.
Ça me concerne, c'est ça. Des gens qui ont cette petite intuition, même si elle est floue, qu'il y a ce truc qui cloche, qui ne va pas, mais qui ne savent pas forcément comment faire, qui ont envie de changer de programme, de mode d'emploi, de façon de faire. Et... qui ne savent pas comment faire, soit aussi qui se retrouvent seuls. On a pas mal de gens qui peuvent venir et qui peuvent avoir la bonne surprise de se dire je trouve enfin mon collectif, ma tribu, alors que justement, avant, je me posais beaucoup de questions je me sens seul, en fait. Je me sens seul avec mes questions, je me sens sans réponse et je ne sais pas comment faire. Donc, c'est là aussi, je crois, que nos espaces sont... ont envie d'être à cet endroit-là de la rencontre, de l'esprit communautaire, de recréer vraiment le lien de la tribu, le réseau, pour que même au-delà du stage perdurent des liens. Et on peut le dire, c'est ce qui s'est passé quoi, dans tous nos stages, toutes nos rencontres. Il y a des liens forts qui sont créés entre nous et les personnes, mais aussi entre les personnes qui sont venues. Il y a des projets qui sont nés. Et voilà, il y a tout un réseau, un tissage qui se met en place. Et je m'arrêterai là et je te laisserai compléter.
Ouais. Cette fibre-là, peut-être un peu artistique, ce truc d'avoir envie d'avoir quelque chose à dire, et pas que, comme on disait dans la parole, mais aussi avec des formes artistiques. Des gens qui pressentent, parce qu'on annonce la couleur, qu'il y a la place aussi pour chanter, pour jouer de la guitare, pour se montrer tel qu'on est, montrer ses trucs, même si on n'est pas des fros, on s'en fout, etc. Ce truc un peu de l'amateurisme, comme on dit. Et amateur, ça veut dire aimer, en fait. Et donc, je pense que c'est des gens qui ont déjà leur pratique. Mais il y a peut-être un petit truc un peu avec la légitimité. Moi, ça a été ma propre histoire. Et donc, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais aussi, à contre-courant, là, et vraiment, merci vraiment pour la question. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est quand même beaucoup de gens qui sont déjà dans la Drôme. Et moi, à titre personnel, j'aimerais ouvrir. Et c'est pour ça qu'on vient à la radio. C'est parce que parfois, je peux avoir le sentiment qu'on tourne un peu dans un entre-soi avec des personnes un petit peu déjà conquises à notre cause, nos idéaux, voilà. On est dans une culture... Alors, comment la définir, c'est un peu délicat, mais en tout cas, les gens qui viennent, ce sont des hommes, des femmes. Globalement, j'ai dit, bon, entre 20 et 60 ans, c'est très mixte. Et heureusement, moi, par exemple, en tant que danseur, ou même... cette question de la poésie et tout, et pendant longtemps, j'ai vu dans certains milieux plus mainstream, il y a des endroits où quand on parle d'émotion ou quand on va vers le corps, ah bah là, il n'y a plus de mecs. Là, les mecs, ils sont où? Non, ça, c'est chaud. Pleurer, bouger, parler, dire qu'on est triste, normalement, il n'y a pas de mecs dans ces espaces-là. La bonne nouvelle, c'est que oui, et c'est plus équilibré. Mais quand même, je dirais, les gens qui viennent, ce sont des gens qui savent qu'on va aller gratter un peu là où ça remue. Donc, je dirais que c'est quand même des gens qui ont déjà une pratique de la connaissance de soi, de la parole et aussi du mouvement. Je pense que, voilà, parce qu'on ne cherche pas du tout à mettre les gens devant des grosses difficultés. Donc nous, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que les gens qui viennent, souvent, ont déjà des pratiques qui ressemblent pas mal aux nôtres. Et en même temps, notre rêve, je crois, c'est aussi... de pouvoir partager avec des personnes qui seraient au-delà de la Drôme et au-delà de cette culture un petit peu partagée, écolo. Je ne sais pas comment la qualifier, là, je suis un peu ennuyé.
Vous proposez d'ailleurs un stage dans pas très longtemps, ici, dans le Diois. C'est aussi pour ça que vous êtes là, à Soubre-Roche, très beau hameau de Boulk.
Exactement. Ouais. Tu veux qu'on.
Faites-en un peu la promo.
Oui, bien sûr.
Déjà, c'est quand, Thomas? Les dates.
Déjà, c'est quand?
On commence par la base.
Hein, on commence par la base. Ça commence le 28 juin, le jour de mon anniversaire, d'ailleurs. Bon, c'est un pur hasard.
Ah mais... Ouais, mais tu le dis quand même, comme ça. On dit ça, on dit rien. Amenez un cadeau, si vous voulez.
Ah, mais voilà. Vous serez le cadeau, si voilà. Vous venez.
Bon.
C'est bien que tu le rappelles. Moi, j'avais oublié entre-temps.
On se donne rendez-vous le mercredi soir, justement. Et donc, je crois que le mercredi, c'est le 28, dans ce magnifique gîte à Soubre-Roche. Et pour que le stage commence le jeudi matin jusqu'au dimanche fin d'après-midi, si je ne me trompe pas, le 2 juillet.
C'est ça. Dimanche voilà. 2 juillet.
Voilà. Et donc, on a cette, cette formidable chance, je dirais, de revenir dans ces gîtes où on a déjà fait quelques événements, dont un l'été dernier, et où on est au contact direct de la forêt qui est magnifique, qui est un espace sauvage et un terrain de jeu formidable pour nous. Parce qu'il faut savoir, et c'est aussi pour ça qu'on aime bien faire ce genre de proposition quand arrive le printemps ou l'été, parce qu'on aime beaucoup que nos ateliers, la plupart du temps, le plus possible, se passent en dehors. Donc dès qu'on a l'occasion, nos cercles, nos espaces de danse, nos rituels, on aime les faire directement dans la forêt, parce que ça change véritablement la donne, on l'a remarqué. C'est pas juste une histoire de folklore, d'avoir des arbres autour de soi. Il y a quelque chose qui se passe, on peut l'appeler comme on veut, on peut y mettre les mots qu'on veut. Mais le fait d'avoir les pieds, les mains dans la terre et de sentir les arbres autour, ça crée une dimension totalement différente. Donc voilà déjà ce que je peux dire. Et après, pour le contenu même, eh ben c'est toujours un laboratoire, c'est vivant, on est en train d'y travailler. Comme on te disait, il y a nos outils, il y a nos repères dont on est sûr et qu'on creuse toujours plus. Et après, voilà, c'est justement le travail qui se fait là de savoir comment on agence tout ça. Ça, c'est nos petits plats, notre recette qu'on fait jusqu'à juin, quoi. Jusqu'au dernier moment, aussi en sentant un petit peu ce qui se passe dans nos vies personnelles et là où on a envie d'aller. C'est pour ça que nos programmes ne sont pas faits trop à l'avance, parce qu'on aime aussi se brancher le plus souvent possible avec ce qui est vivant, avec nos expériences, avec ce qu'on vit, et de réactualiser, en fait, tout en se basant toujours sur les mêmes intentions, les mêmes repères très forts, faire avec le vivant et toujours ajuster en fonction de ce qu'on a vraiment aussi, nous, envie de proposer, pour pas rentrer dans une sorte de routine de... on ferait toujours les mêmes stages ou les mêmes activités ou les mêmes pratiques, quoi.
Mais ça veut dire que votre état d'esprit du moment pourrait être déterminant et influer le stage, quoi.
Je vois un petit sourire de Jocelyn, je sens qu'il a envie de répondre. Donc je vais le laisser répondre.
Oui, c'est en fait, c'est pas un choix. C'est ce qui se passe.
C'est subi.
Voilà.
Non, mais par exemple, justement, tu parlais de séparation. Bon, bah là, imagine, oui. Il t'arrive une séparation, oui, la veille du stage. Du coup, tu vas être.
C'est du vécu, ça. Hein.
Non, bah, je sais pas.
Non, mais vraiment. Hein.
Ah bon,
je peux t'en parler aussi. Tout à l'heure, je parlais de manière générale. Mais pour le coup, la séparation, ça m'est arrivé. Mais ça, je suis pas le seul, hein, je pense.
Oui.
Mais par contre, en veille de stage, ça m'est arrivé aussi. Carrément.
Et est-ce que ça a changé?
Et là, du coup,
complètement.
La nature du stage.
Ben, en fait, comme si j'étais un participant ou une participante, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout seul dans mon coin, en train de bien plonger, là, eh ben, j'étais avec les copains, les copines, j'étais dans du nouveau, en fait, du nouveau de base, parce que je suis avec 10 personnes que j'ai jamais vues de ma vie, et que tout est à recommencer, et que nous, c'est toujours aussi un challenge, et que ce qu'on propose avec le vivant, c'est quand même à valider. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas sur le moment, avec les énergies du moment, les personnes? Donc forcément, on est, je dirais, obligé de composer avec ces trucs du moment. Par exemple, l'année dernière, un truc qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué dans le Diwa, enfin dans la Drôme l'été dernier, c'est la sécheresse. Et en fait, on a d'autres activités. Et il y a des trucs qu'on a été, face à la sécheresse, aux incendies, les gens étaient tellement bousculés. Moi, c'est un truc qui m'a, je te jure, vraiment, ça m'a tellement chamboulé. Et jamais j'avais été perturbé à ce point-là, avec le feu et tout. Et donc là, on a dû créer des événements qui étaient en direct, en fait, en disant non, mais là, en fait, on doit se retrouver pour partager ses émotions, quoi. La danse, notamment, pour exorciser, en fait, ce genre de trucs. Voilà. Et là, par exemple, on va se servir aussi de ce qu'on a découvert ce week-end dans un format qui était nouveau. C'est-à-dire, là, c'était pas un stage, mais nous, on goûte aussi à ce qui est possible. Et maintenant qu'on a vu ce qui était possible avec ce festival de la parole et de donner de la... J'ai vu, moi, par exemple, moi, j'ai pas d'enfants. Je connais les enfants, mais certainement pas comme ceux qui en ont. Mais pour moi, en tant que facilitateur, animateur d'ateliers, de parole, d'écriture et tout, c'était intéressant de voir qu'en fait, on pouvait aller dans la vulnérabilité, parler de la mort, par exemple, dans un lieu où y avait aussi des enfants de moins de 10 ans. Et c'était très beau. Bon, mais la magie, ça va être de dire « Ah, mais ça... Ça a super bien marché. Viens, on va le reprendre et on va le mettre dans le stage le mois prochain. »
Donc dans ce gîte à Sourereau, j'imagine on va bien manger aussi, non? Bien manger, bien dormir.
Ouais.
Qu'est-ce que vous proposez dans les à côté?
Eh bien, le silence, tu vois, parce que c'est quand même un truc dont j'ai envie de parler. C'est des pratiques qu'on avait entre nous et dans des groupes d'amis. Mais maintenant, on les propose aussi dans les stages. Expérience simple. Tout le monde va se coucher et tout. Et le lendemain, par exemple, on va reprendre les ateliers à 9h du matin. Chacun vit sa vie, fait ses petits trucs, se lève à l'heure qu'il veut, mange, fait ce dont il a besoin. Mais on fait cette proposition de goûter au silence. On ne se parle pas avant 9h. Et juste, j'aime énormément partager ça. Parce qu'en fait, on veut juste court-circuiter le truc. C'est pas qu'on veut empêcher les gens de se parler, de se rencontrer, tout au contraire. Mais déjà, se prendre au moins juste une heure pour être avec soi. Et les gens nous disent « Ah ouais, mais juste ça !» Ah, merci, quoi. Et c'est peut-être le moment qui va être le plus important pour eux dans le stage. C'est ce moment où, en fait, pendant une heure, ils avaient la paix. Et personne venait leur parler. Il n'y avait rien à dire. Et qu'en fait, ils se disent, mais attends, c'est quand même dingue. C'est quand la dernière fois que j'ai pas été là tout seul, dans une forêt, tout seul, sans mon compagnon, mes enfants. C'était bon. Et on commence déjà la journée, voilà, par exemple, avec... c'est pas un atelier, c'est une petite pirouette. C'est juste, chut, on arrête de dire la 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 la. On se tait, on essaye ça. Voilà.
Ça, c'est une chose, le noble silence auquel on est bien attaché. Mais aussi, c'est le fait de vivre ces temps informels qu'on considère comme parfois aussi important, voire plus important que les moments formels d'atelier où on va dire, entre guillemets, on va proposer, on va se placer en tant que facilitateur. Je suis assez étonné et bluffé de voir l'esprit de communauté, de camaraderie qui se dégage après une journée entière de cercles, de connexions, d'exercices, d'ateliers qui peuvent être éprouvants, et ben, le moment du repas, le moment du soir, souvent nous, on fonctionne en repas partagé où chacune va amener de la nourriture, mais ce n'est pas seulement pour le côté pratique, pour le côté ne pas se faire trop chier avec la bouffe ou quoi. Il y a vraiment aussi un aspect de se retrouver, cuisiner ensemble, proposer ces petits plats, les partager. Mais il y a quelque chose qui se joue aussi, de l'ordre du mystère qu'on ne peut pas expliquer. Et souvent même, je trouve que ce qu'on pourrait appeler les grandes idées, les moments de connexion forts, les projections dans un futur ensemble, se font dans ces moments informels, en fait, où, juste autour d'un bon plat, d'un bon repas préparé avec amour et dans la subtilité de l'énergie de la journée, où on est avec tout ce qu'on a vécu la journée et on va préparer le repas avec ça et ça change la donne, en fait. Tous ces moments informels, ça fait partie du stage, en fait. C'est une expérience qu'on propose de vivre ensemble aussi, d'apprendre à vivre ensemble pendant 4 jours avec des gens qui, la veille, ne se connaissaient pas du tout. Et si c'était croisé dans la rue, peut-être ne se serait jamais vu, dit bonjour ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi ça qu'on propose et donc ça dépasse le simple cadre de horaire de 9h midi et 15h 18h. C'est vraiment l'ensemble. Parce que c'est aussi un truc, c'est que dans nos stages, on aime proposer des temps longs de pause pour l'intégration et aussi pour faire confiance à ce qui va se vivre en dehors de ce que nous, on propose. C'est-à-dire que nous, on pose les conditions, les bases de la connexion, de la sécurité. Et après, le plus on a du temps, entre guillemets, vide, qu'on appelle vide, mais qui est tout sauf vide, le plus il va pouvoir se passer des choses. Donc c'est aussi sortir de cette idée du contrôle, de « je propose un stage, je sais exactement ce dont vous avez besoin ». C'est plus subtil que ça, nous. C'est se placer en tant que gardien du cercle. Et par contre, après, c'est avoir confiance en la vie, dans les gens, dans leur expression, pour que les choses se fassent, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que le cadre informel est aussi important dans nos stages.
Et puis si c'était tout timé, ça irait un peu à l'encontre de tout ce que vous venez de nous raconter depuis 40 minutes.
Oui, entre autres, oui.
Comment on s'inscrit?
On peut aller sur notre site qui est sortir-du-rêve.strikingly.com ou nous envoyer un mail et je te regarde pour être sûr que je ne me trompe pas dans l'adresse email sans te mettre la pression. Mais qui est sortir-du-rêve@protonmail.com.
Il y a sur la dite page, il y a aussi un numéro de téléphone, je crois bien.
Et c'est le mien, et j'ai pas peur, je vais le donner à l'antenne comme ça. C'est le 06 66 36 97 69. Voilà.
Est-ce qu'on a tout dit?
J'ai envie de te répondre que j'ai l'impression que tu nous as offert un grand espace. J'ai l'impression qu'on a bien... Voilà, moi, en tout cas, un grand merci à toi et à tes questions et à ce temps long auquel je ne m'attendais pas forcément. Et non, j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses. Et voilà, merci beaucoup de nous donner cette possibilité. Parce qu'en fait, on fait des trucs simples. Là, on essaye, c'est peut-être un... C'est vraiment très simple, en fait, ce qu'on fait. Et voilà. Et c'est cool de nous donner cette possibilité d'essayer de parler de cette simplicité. Voilà.
Ouais, c'est immense, ouais. Déjà, merci beaucoup pour ça.
Merci à vous deux. Thomas, Josquin, à une prochaine.
À une prochaine. Merci, Baptiste.